Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Et ravi de vous retrouver pour ce grand week-end de sport qui nous attend. Ça va être très dense, hein. Je vous préviens, on a une finale de l'US Open mythique. On a les Bleus qui ont joué de la Formule 1, du vélo. Non, ça va être absolument incroyable et c'est pour ça qu'il nous fallait une tablée high level, haut niveau pour ces grandes gueules du sport du week-end. Jérôme Pinault est là. T'as vu, je commence par toi comme
Oula,
ça. Je te mets en... Ça va, Jérôme?
Je m'y attendais pas, je suis ému.
Mais oui, bon, ça après, va, tu sais que j'ai un passé dans le cyclisme qui fait que je vais tout de suite te mettre en avant. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Tu vas bien?
Ça va très, très bien. La grande forme.
Et la grande forme parce que bah, c'est le grand retour dans la grande gueule du sport. C'est sa rentrée. Denis Charvet.
Salut, Jérôme. Moi, je suis très heureux de... que tu sois là.
Voilà. Bah, merci.
Hein. J'aimais beaucoup JC. Mon compagnon, mon ami, mais là voilà, toi tu on s'est connu il y a très longtemps.
Ah ben oui, bien sûr.
T'es parti en Argentine chercher ta femme.
Et bah oui, exactement.
Ah, c'est ça que t'es parti faire là-bas.
Oui, je suis pas allé la chercher, bon, c'est rencontré, on s'est marié.
L'histoire d'amour est tellement belle qu'il faut la dire.
Bien sûr, oui, c'est vrai.
Voilà, je suis très heureux d'être là, vraiment, avec toi, avec Jérôme, bien sûr, Fred et Pascal, mais et puis un petit coucou à Christophe.
À Christophe Cessieux, bien évidemment, qui est
alias petite patte.
Oui, petite patte, un forfait, je vous rappelle. Ne faites pas du kitesurf chez vous, ça peut être dangereux pour les eaux. Voilà, surtout si vous allez au Brésil et vous maîtrisez pas forcément.
Lui, il fait du kitesurf au Brésil.
Au Brésil, c'est ça. Non, en France, il l'aurait pas fait.
Non.
Tu vois, je te remercie pour ta bienveillance, Denis, parce que c'est pas le cas de Fred Weiss qui m'a dit tout à l'heure. C'était mieux avant. Salut, Fred.
Salut. Oui, c'est vrai, c'était mieux avant, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et ce qu'on a surtout.
Ouais. Ça va quand même. Ouais, t'es quand même content d'être là.
Je suis content de voir tout le monde. Enfin, sauf un. Mais sinon, je suis content.
On verra quoi. On jugera. On jugera la fin. En plus, t'es là tout le week-end.
C'est qui, sauf un.
Sauf un, c'est ça la question.
Voilà. Alors, je suis très heureux d'entendre la voix de Pascal Duprat parce qu'on était inquiet. Hein, sale samedi pour les coachs.
Je suis en forme.
Luis Enrique a fait du vélo. Il est tombé, il s'est fracturé la clavicule.
Quelle idée de faire du vélo aussi. Voilà. Quelle idée de faire du vélo. Voilà.
Luis Castro, le coach de Nantes, il fait un foot. Bam, les croisés, apparemment. Pascal Duprat, bonjour. Est-ce que tu vas bien?
Je suis en pleine forme et je suis prêt. Hein, donc, si jamais vraiment
Pascal,
une défection.
Je suis prêt.
Non, je fais très attention.
Je fais très, très attention.
OK? Je ménage ma monture.
Non, mais est-ce qu'en plein cœur de la saison, comme ça, tu pouvais sortir en VTT et prendre des risques, Pascal?
Si tu avais les risques que j'ai pris. Attends, moi, à 38 ans, j'ai fait mon premier infarctus. Donc, tu vois, des risques, il a bien fallu que j'en prenne également en tant qu'entraîneur. C'est le lot de tous les entraîneurs de prendre des risques pour tous ceux qui ont été entraîneurs.
Pour mettre la bonne
franchement, ça a commencé très tôt ce matin. Fred Weiss, on va le découper.
Oui, en petits morceaux.
En petits morceaux,
ça va. En faire pour un paquet.
Bah, il y aura beaucoup de petits morceaux.
On m'a prévenu avant cette émission, il va y avoir du travail. Je m'attendais pas à ce qu'à 9h09 on parle tout de suite d'infarctus à 38 ans. Mais bon, on peut partir comme ça quand même.
C'est la vie.
C'était le premier en plus. Hein. Il y en a eu d'autres derrière. Oui.
Allez, les amis, on a un gros sommaire à 10h sur le ring des GG. Vous savez que c'est la reprise du top 14 ce week-end. Oui, et Denis, c'est pour ça qu'il arrive comme un frelon. Là.
Ah, oui.
Le Stade Toulousain est le grand favori pour conquérir un quatrième bouclier de Brennus consécutif. L'hégémonie toulousaine était un problème pour notre championnat. L'invité des GG, c'est la journée paralympique aujourd'hui, un an après le succès de Paris 2024. Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, sera avec nous. Quel héritage après les Jeux? Quels moyens? Certaines voix grondent déjà. Et puis les GG vous font votre programme du week-end, vous le savez, c'est la zapette. À 10h45, les GG se confient dans le vestiaire à 11h après la défaite de Djokovic. 38 ans contre Carlos Alcaraz hier. Vous savez qu'il va encore continuer. On va échanger sur cette question. Comment savoir arrêter à temps? Et puis en fin d'émission, venez jouer avec nous dans les jeux du sport. Certains vont faire leur première. Et puis participer au 32-16 évidemment sur notre WhatsApp au 06 12 424 424 et sur le compte des GG du sport.
La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour cette Ukraine France. Barcola, il va tenter quelque chose dans la surface désormais. Avec son pied droit en retrait, la frappe de Lisée. Elle a vu. Pour l'équipe de France. Michael Olise avec son pied gauche. Avec le centre de Zinchenko, la tête des Ukrainiens. Et c'est sauvé miraculeusement par la défense de l'équipe de France avec Konaté qui a mis sa tête. C'est parti pour Soudakov, il tient directement l'arrêt de Mignon. Oh, la reprise derrière. Oh, la barre transversale. La barre transversale sur la tête de Zabarni après cette tentative de Kalousny.
Je vais arrêter. Dembélé blessé.
Ah là, c'est
il se tient
nouvelle.
La cuisse.
C'était déjà l'ischio contre Toulouse.
Coup dur pour Ousmane Dembélé.
Bon, l'ouverture de Tchouaméni. Mbappé en vitesse face à Zabarni. Mbappé qui va récupérer le ballon. Il a un contrat à jouer face à Zabarni. Le crochet de Mbappé est passé. Mbappé la frappe. Et le but. Le 51e but en bleu du capitaine Kylian Mbappé. Et c'est terminé. L'équipe de France entame parfaitement sa phase de qualif pour la Coupe du Monde. La victoire des Bleus 2-0 grâce à Olise à la 10e. Et Kylian Mbappé, 83e, son 51e but en bleu.
Première réussie pour les Bleus qui débutaient hier leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde en Pologne face à l'Ukraine. Vous l'avez entendu, victoire 2-0. Olise, Mbappé, les buteurs. Didier Deschamps avait opté pour son 4-2-3-1 désormais. On a vu une première mi-temps maîtrisée, une deuxième plus laborieuse. Point noir, les sorties sur blessure de Doué et Dembélé qui vont beaucoup faire parler, surtout cette dernière. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non ? La rentrée des Bleus vous emballe-t-elle ?
Il y a un nouveau générique.
C'est
un nouvel habillage. Je découvre là, moi.
Ça te plaît ou pas ?
Ça donne envie de danser un peu. Non, mais j'ai l'impression de faire une autre émission, donc c'est bien.
Je change un peu la chanson des feux, le générique des Feux de l'amour.
Oui, un peu. Oui.
Les gars, par contre, on n'est pas sur RMC Gold. Hein. On ne va pas faire deux heures sur la bande son. Je vous pose la question. La rentrée des Bleus vous emballe-t-elle ? Tiens, Denis.
Oui, beaucoup.
Jérôme.
Oui.
Pascal.
Oui.
Fred ?
Non.
Ouh,
évidemment.
32-16, WhatsApp 06-12-424-424 pour nous répondre. Jean-Louis Tour, notre voix du foot, est en Pologne encore. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde, salut les Jean-Louis.
Jean-Louis, que vous avez entendu il y a quelques instants, c'était une grande soirée face à l'Ukraine. Alors avant de parler du cas Dembélé qui fait beaucoup parler ce matin, Jean-Louis, vous en avez déjà beaucoup parlé hier soir dans l'after, on va en reparler tout à l'heure. On rappelle qu'il est déjà forfait pour la suite du rassemblement. Parle-nous de l'atmosphère hier soir après cette victoire. Est-ce que on a eu un sélectionneur convaincu dans le fond et dans la forme?
Ah, écoute, Didier Deschamps, il garde un peu quand même le pied sur le frein sur certains trucs. Déjà sur la tactique, bah là ça fait 4 matchs de suite que l'équipe de France aligne donc ses 4 joueurs offensifs avec Olise derrière l'attaquant, donc en numéro 10, et ça paye. Hier on a vu vraiment un match maîtrisé de l'équipe de France. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça pendant une heure. C'était vraiment de très bon niveau, de très bonne facture. Ça a permis en plus la victoire. Alors on tempère avec le niveau de l'adversaire, mais en tout cas match maîtrisé pour l'équipe de France. Mais Didier Deschamps, après le match, il dit quand même, bon voilà, faire un pressing comme on l'a fait en première mi-temps, ça demande de l'énergie, des répétitions, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on peut faire ça sur chaque match en permanence ? Il avait un petit doute, donc à voir si ce sera reconduit dans les gros matchs, couperés à certains moments d'un grand tournoi. En tout cas, pour l'instant, il y a une équipe de France qui progresse, ça c'est clair, il y a des individualités qui se mettent en avant, et il y a une impression collective qu'on n'a pas forcément eue précédemment avec les Bleus.
Jean-Louis, tu restes avec nous évidemment une impression collective qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Pascal, tu as dit oui, toi t'as plutôt été emballé, t'es d'accord avec ce que dit Jean-Louis ?
Enthousiasmé, je vais dire 45 minutes et puis après un peu moins bien. J'ai beaucoup aimé le pressing, j'ai beaucoup aimé l'équilibre de l'équipe, j'ai beaucoup aimé le duo de récupérateurs, donc Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Franchement, cette équipe était souveraine, et puis Michael Olise derrière l'attaquant, c'est top. Et j'ai même vu Mbappé être le premier concerné pour ce qui est du pressing. Il a marqué un but merveilleux. Il a une coupe de cheveux qui me rappelle Ronaldo le Brésilien. Franchement, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé sur cette première mi-temps. Et vous voulez que je vous dise, bah encore une fois, les chiens aboient et la caravane va passer avec Deschamps. Deschamps, bravo, c'est peut-être. Il est en voie d'un 7 sur 7.
Attention, calme-toi.
À des grands tournois. Oui, c'était le plus gros écueil de l'équipe de France. Ouais, les enfants, l'Ukraine, c'était le plus gros écueil. Il fallait passer. Voilà, bravo.
Appelez-nous 3216 évidemment si vous avez une caravane hein, et non pas une caravane.
Caravane, oui. Tu me reprends, Georges. J'ai l'habitude. D'habitude, c'était Drouet qui me reprenait. Maintenant, c'est toi.
Mais peut-être parce que tu commets des erreurs.
Après, est-ce que toi, t'as un camping-car?
J'en commets, je reconnais.
Écoute, tu seras dans le journal moyen lundi. Le journal moyen d'Adrien Gouin, lundi.
Fred, pas forcément emballé. Pas emballé même.
Pas emballé. Alors, je peux comprendre que mes collègues soient emballés assez rapidement. Je l'ai remarqué depuis très longtemps, et Pascal le premier, dès qu'il voit un truc un peu sympathique, ça l'emballe. Déjà, moi, la poule de l'équipe de France, ça m'emballe de fou. C'est vraiment, je suis surexcité quand je vois l'Azerbaïdjan, l'Islande, l'Ukraine, je suis comme un fou. parce que vraiment, c'est des équipes de top niveau mondial.
Ouais, donc vraiment, je suis 26e, les Ukrainiens.
Ensuite, on parle d'une super première mi-temps. Oui, on a combien de tirs cadrés?
Pas énormément, effectivement.
Presque pas tir cadré. Donc, effectivement, le jeu est plutôt plaisant. Ça bouge bien. Une mi-temps. La deuxième mi-temps, on s'est ennuyé. Il y a des blessés. Finalement, ce n'est que l'Ukraine en face et on est en train de se dire
c'est jamais facile de jouer contre les petites équipes moins bonnes que toi.
Pas tous en même temps.
T'es excité du fait de jouer contre l'Ukraine?
Mais c'est pas ça, t'es obligé de jouer contre l'Ukraine.
Oui, t'es obligé de jouer, mais c'est pas pour autant que ça t'excite. En quoi c'est excitant de jouer contre l'Ukraine. Il faut quand même se rendre compte des réalités. Il n'y a rien d'excitant à jouer contre l'Ukraine. Il n'y a rien d'excitant à jouer une mi-temps. Il n'y a rien d'excitant à avoir des blessures. Il n'y a rien d'excitant à entendre Didier Deschamps dire.
Arrête-le.
Didier Deschamps, je suis pas sûr qu'on soit capable de reprendre la même chose. À un moment, le plastique contre l'Ukraine, et ça vous excite,
mais
les
non,
gars.
Mais non, c'est pas le
cas. Soyez un peu plus calme.
Fred, je suis désolé, j'ai vu
plein de matchs d'équipe de France contre des équipes moins fortes,
bien sûr,
qui n'arrivaient jamais à faire le pressing, qui rendaient un résultat très médiocre. Excuse-moi, ça fait quelques temps. Et pour une fois, mais contre une équipe, même si c'est l'Ukraine, t'as vu du beau jeu, t'as vu une organisation qui était mise en place par Didier Deschamps et une volonté de mettre quatre offensifs, ce qu'il ne voulait jamais par le passé.
Ce qu'il a fait évoluer en deuxième mi-temps d'ailleurs.
Non, mais d'accord, mais bon, si tu veux. Il faut reconnaître le changement, il faut reconnaître l'amélioration de cette équipe de France et cette volonté d'aller plus vers l'attaque. Je suis désolé, t'as une Coupe du Monde dans un an, t'es obligé maintenant de faire des essais. C'est une période d'essais par rapport à la Coupe du Monde parce qu'on va se qualifier évidemment. Le débat n'est pas de dire on joue une petite équipe.
Tu peux pas juger ton niveau.
Mais si, tu peux
pas juger ton niveau quand tu joues une équipe aussi faible.
Par définition, quand tu fais des qualifications pour un tournoi, quand t'es tête de série, tu joues forcément contre des équipes qui sont moins fortes que toi. L'Ukraine est 26e au classement mondial, c'est pas une petite nation, c'est pas le top niveau. Mais si l'Ukraine.
C'est pas la Barça.
On a battu l'Ukraine, on est à deux doigts des champions du monde.
Je te rappelle aussi que l'Ukraine a failli nous empêcher d'aller à une Coupe du Monde une année aussi.
Et donc, pour autant, on doit satisfaire de ça. Après, c'était il y a longtemps. Et donc, tu joues
l'Ukraine sur un match début septembre, juste après la trêve, où il y a des
saisons.
On est quand même en reconstruction, en tout cas, t'as beaucoup de blessés, tu reconstruis une équipe. On en a parlé hier matin en préparant l'émission, en se disant est-ce qu'il y a des stars, est-ce que l'équipe de France, les gens se reconnaissent dans cette équipe. Bon, là déjà, t'as un menu qui est sympa et ce qui t'offre hier soir, au moins sur les 45 premières minutes, je te rejoins sur la deuxième mi-temps. C'est satisfaisant. On va pas s'emballer. Non, on va pas dire.
C'est bon, parce que ça
moi, mais pour oui, le coup, je vais voler au secours de Fred. T'as pas besoin. Ça, c'est vrai. Tu t'en sors très bien. Excuse-moi.
Si t'es pas content de ce qui s'est passé hier, si tu te dis pas, on est enthousiasmé par ce qui s'est passé hier soir pendant les 45 premières minutes. En fait, il se passe quoi?
Deschamps reconnaît qu'il se dit que sur des matchs plus difficiles et dans les enchaînements des matchs, ça va être compliqué de faire ce pressing. Donc, t'es enthousiasmé de quoi? En gros, et on a l'impression que
tu voulais que Deschamps il saute au plafond.
Petit avant-goût.
Didier Deschamps, c'est le sélectionneur. Tu voulais qu'il saute au plafond. Il a un match à préparer mardi.
Il a deux matchs.
Il a une qualification assurée. De quoi tu me parles, Fred?
Pascal, ça y est. Arrête. Je suis pas en train
de dire qu'il doit sauter au plafond. Par contre, l'énoncé de la question ne nous posait pas la question, donc. Est-ce que le premier match de l'équipe de France t'emballe?
Oui.
Mais sans déconner, si tu compares à ce qu'on a vu quelquefois de l'équipe de France, je suis un ardent défenseur de Didier Deschamps, je le resterai jusqu'à la fin.
C'est peut-être ça le problème, Pascal.
Tu peux quand même reconnaître que la première mi-temps hier, elle est enlevée. Est-ce que tu te souviens qu'il y a quelques mois de cela, un barrage promotion-relégation pour la Ligue des Nations, la Belgique est allée perdre contre l'Ukraine 3-1 au match aller. La Belgique, c'est pas une petite nation.
Ouais, justement, les amis.
C'est une 26e nation.
Est-ce qu'on s'emballe pas?
La France l'a étouffée.
Est-ce qu'on s'emballe pas un peu trop?
Je dis que j'étais enthousiaste.
Parce que justement, on attend depuis tellement longtemps de voir un peu de jeu que dès qu'on en voit un petit peu, eh bien, tout prend des trompes.
Pour moi, c'est peut-être la solution pour redevenir champion du monde. Je pense que on a une équipe qui a beaucoup de qualité, surtout dans toutes les lignes, et que je pense que ça repasse par le jeu. Et on sait très bien que il y a été souvent Deschamps a toujours été un peu fébrile par rapport à ça. Mais là, je trouve que cette avancée est significative et ça donne beaucoup d'espoir. Cette première mi-temps donne beaucoup d'espoir, notamment avec un joueur comme Olise. Qu'on ne découvre pas, ouais, mais qui est en train de prendre une dimension exceptionnelle. Je veux dire par là, c'est que tu n'attendais pas ce garçon à un tel niveau. Donc il y a Olise au milieu, tu as Tchouaméni qui est redevenu le joueur.
Mais d'ailleurs, l'homme de début de saison du Real.
On l'avait perdu pendant longtemps, il redevient ce qu'il était.
Mbappé.
Et je me dis, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il y a plein d'espoir, Fred. Au contraire, il faut voir le match de ce côté.
Moi je ne peux pas trop considérer qu'il y a de l'espoir quand tu joues contre l'Ukraine d'une part, et quand à la fin du match, Deschamps te dit c'est tellement énergivore qu'on n'est pas sûr de pouvoir reproduire ça. Moi ça m'inquiète,
c'est la seule erreur qu'il a commise en tant d'années de dire parce que les footballeurs professionnels français, ils sont capables de faire une heure et demie comme la première. Il n'y a pas une équipe au monde qui aurait pu résister en première mi-temps, je crois. Peu d'équipes au monde auraient résisté à l'équipe de France en première mi-temps, même les meilleurs.
Jean-Louis, en Pologne, les joueurs sont emballés aussi finalement par cette nouvelle envie, le fait de jouer en 4-2-3-1, que ce soit un peu plus offensif. Qu'est-ce qui se dit du côté des joueurs?
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont emballés, effectivement, et ça se voit sur leur course sur le terrain. Ils ont compris, Didier Deschamps leur a mis dans la tête par rapport au rassemblement de juin que pour jouer comme ça avec quatre offensifs, il fallait que tout le monde travaille. Ça s'est vu pendant 45 minutes, une heure, où pour le coup, tout le monde a fait le pressing, a couru, Kylian Mbappé en premier. On l'a beaucoup surveillé pour ça au niveau de l'attitude. Il a pas tout réussi techniquement, mais dans l'attitude, il est irréprochable. Après, c'est vrai que c'est l'Ukraine, mais en même temps, des matchs comme ça, contre des blocs bas, des équipes resserrées, on a beaucoup plus galéré dans le passé qu'hier. Moi, c'est cette progression que je note et c'est ça qui rend le truc enthousiasmant.
Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France à ce niveau. Je suis désolé.
Fred, il était présent au match, il a un ressenti que t'as pas.
Pascal, le ressenti que j'ai, c'est que la deuxième mi-temps,
il a regardé le match au moins.
Il a tombé dans le travers et qu'à la fin, c'est Rabiot qui rentre. Et je suis désolé, on revient dans ce que Didier Deschamps a l'habitude de nous proposer.
On en parle en quelques instants. Des Bleus à nouveau, parce qu'il faut parler du cas Dembélé, les amis. Il s'est blessé hier, souvenez-vous, il revenait de blessure déjà avec le PSG, il était incertain et le PSG n'est pas du tout content de l'avoir vu repartir après une demi-heure. Il a déjà quitté le rassemblement des Bleus. Jean-Louis va tout nous raconter, mais d'abord événement dans les grandes gueules du sport, remportez vos places justement pour assister au match qualificatif pour la Coupe du Monde France-Islande ce mardi à 20h45 au Parc des Princes. Pour remporter vos deux places France-Islande, envoyez France par SMS au 732-16. Envoyez France au 732-16.
Gagnez vos places pour France-Islande sur RMC avec EDF, partenaire majeur de la Fédération Française de Football.
Allez, on reparle des Bleus. La blessure de Dembélé, faut-il incriminer le staff des Bleus? On en reparle dans quelques instants dans les GG du sport sur RMC. Restez avec nous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Fred Weiss, avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault, Denis Charvet, Jean-Louis Tour en Pologne après la victoire des Bleus hier en Ukraine 2-0. Je baisse un peu les décibels parce que là il est 9h30 du matin les gars, il y a des gens qui se réveillent. On va pas les agresser. Mais bon, on va les accompagner quand même dans la bonne humeur. Donc il suffit de trouver le bon équilibre pour pas mettre la cloche à chaque fois. Mais vous êtes partis très fort. Les gars, on parlait il y a quelques instants de ces Bleus qui vous emballent. Non, pas comme ça, Jérôme. Mais surtout, ce qui s'est passé hier, Jean-Louis, autour de Ousmane Dembélé, il faut qu'on en parle ce matin. Ça vous a déjà beaucoup fait parler dans l'after hier. Je rappelle, le favori du Ballon d'Or est entré à la mi-temps à la place de Désiré Doué, touché à un mollet. Il est sorti une demi-heure plus tard, touché à la cuisse droite. droite, Ousmane Dembélé. Je vous rappelle qu'il avait été, il avait senti une gêne aux ischios de la cuisse gauche à Toulouse le week-end dernier. Était-il en mesure de jouer 6 jours plus tard 45 minutes de niveau international? Question à Didier Deschamps après le match.
Bah oui, autrement je le fais pas rentrer. En plus, c'est pas le... c'est l'autre cuisse, même si il n'y a pas ressenti un truc violent, mais à partir du moment où, c'est parce qu'il était dans de bonnes dispositions. Après, malheureusement pour lui, c'est arrivé, ça peut arriver à quelqu'un qui a rien avant. Voilà, mais si je le fais rentrer, autrement, j'aurais fait rentrer un autre joueur, mais de par déjà lui ce qu'il pensait et la situation médicale, il n'y avait pas de moindre appréhension ou quoi que ce soit.
Voilà, comprenez, il était apte, hein, selon Didier Deschamps. Donc le problème, Jean-Louis, c'est que le PSG n'est pas tout à fait d'accord avec cette version-là, c'est ce qu'on peut dire ce matin?
Ouais, exactement. Arthur Perrault a eu quelques infos hier soir dans la nuit et ils sont furieux, les dirigeants parisiens, parce qu'ils ont laissé la consigne au staff de l'équipe de France qu'il fallait ménager Ousmane Dembélé, étant donné son état de fatigue, parce qu'il y a eu cette grosse saison dernière où il joue plus de 50 matchs, il n'y a que 3 semaines de vacances et ils reprennent très vite la compétition, donc il y avait un haut risque de blessure selon le staff du PSG. Et en face, bah c'est toujours la même histoire de toute façon entre les staffs des sélections et des clubs. Oui. C'est-à-dire que les clubs ont envie du principe de précaution le plus élevé. Le staff de l'équipe de France dit il était apte. Dans ce cas, pourquoi s'en priver? Bon voilà, peut-être que Didier Deschamps et le staff médical des Bleus auraient pu rajouter un principe de précaution en se disant il y a le match contre l'Islande. Moi je pensais que ce serait ça, que Dembélé restait avec l'équipe de France pour le match de mardi contre l'Islande, et sans doute la blessure de Désiré Doué a fait qu'il a joué plus que prévu et du coup il y a eu cette rechute, même si c'est à l'autre cuisse.
Faut-il incriminer le staff des Bleus sur cette séquence? Venez au 32-16 et aussi sur notre WhatsApp au 06-12-424-424. Jérôme Pinault.
Non, enfin moi, j'incrimine d'abord le staff du Paris Saint-Germain. Ce qui me fout hors de moi, c'est d'entendre cette récidive, cette blessure. Cette blessure, elle n'est pas anodine. Elle est faite, elle vient du fait que, même si c'est l'autre jambe.
C'est pas la même,
C'est l'autre jambe. Non, oui. Mais Denis, déchirure musculaire.
Tu peux compenser, en fait. C'est peut-être
la première. Et c'est surtout, souvent, ou très souvent, dû à une fatigue, dû à un enchaînement, dû à un joueur qui n'est pas prêt, qu'il soit prêt ou fatigué, c'est un peu la même chose. C'est les lésions musculaires. La deuxième chose, c'est qu'il joue à Toulouse. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain veut lever le pied avec certains de ses joueurs.
Ils ne font pas jouer à Toulouse.
Ah oui, mais ils se blessent à Toulouse parce qu'ils jouent. Tu veux dire quoi? Il n'aurait même pas dû jouer à Toulouse.
Il aurait dû le préserver.
Ces garçons-là auraient dû reprendre la saison peut-être.
Moi,
un peu plus tard.
Je pense qu'il a raison.
Tu
ne
peux pas te plaindre de faire rentrer un Dembélé contre l'Ukraine quand tu dis au sélectionneur, il est apte, on fait attention, mais il est apte, alors que toi, tu l'as fait jouer à Toulouse. C'est un match international. Tu ne peux pas dire aux gars, vas-y, mets mollo.
Je rappelle, le PSG a eu 3 semaines, à 1 mois, même pas de repos.
Mais à ce moment-là, le PSG n'a qu'à dire, avec à refuser qu'il y aille, tout simplement.
Comme le Real a fait avec Mbappé.
Mais
sans tenue de laisser les joueurs à disposition.
Pas tous en même temps.
Oui, mais si Santan avait dit des échanges, je suis désolé. Mbappé, il a fait la même chose l'année dernière.
Exactement.
Je vois pas pourquoi, Pascal, ça marcherait pas cette année avec Dembélé.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que le PSG doit avoir plus de poids et doit justement imposer ses décisions. S'il considère qu'il n'est pas apte, il faut pas qu'il l'envoie. Et je suis pas d'accord avec toi. À Toulouse, c'est là qu'il se blesse.
Ouais, il faut pas qu'il l'envoie, il faut qu'il déclare forfait. C'est pas aussi simple que ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il doit avoir plus de poids. Et Dembélé doit avoir plus de poids aussi. Si lui se considère pas apte, il doit pas jouer. Et en même temps, s'il joue, c'est qu'il y a pas de souci. Donc moi je suis un petit peu gêné par cette situation parce que
le joueur, parole du joueur.
Oui, on a deux objectifs différents, hein. On a le PSG qui a un objectif et l'équipe de France qui a un objectif.
Ah mais c'est comme le disent Jean-Louis, hein.
C'est un vrai souci à chaque fois.
Les intérêts sont différents. Pascal, on t'a pas entendu sur cette séquence.
Oui, parce que ça j'essaie d'être discipliné parce que j'ai pas envie que tu me tapes sur les doigts. Donc ce que je voulais dire, c'est que je suis sur la ligne de Fred, c'est-à-dire les staffs du PSG et de l'équipe de France, ils se sont parlé. Ok, la blessure, c'est le football, ça existe. Vous évoquez le nombre de matchs disputés, tout ce que vous voulez, je veux bien. Mais à un moment donné, il y a le joueur aussi, et son ressenti. Et certainement que le ressenti du joueur a été demandé. pour le moins par Didier Deschamps et son staff, en plus des précautions d'usage, des examens qui ont été passés. Donc, après, il y a l'impondérable du match, il y a Doué qui se blesse, et en fait, à partir du moment où Deschamps a sélectionné Dembélé, ça voulait dire qu'il était apte à jouer une partie du match. Et ce que je comprends pas, c'est que tout ceci soit servi par la presse interposée de manière à faire un problème de la gestion de Dembélé en équipe de France.
C'est pour ça qu'il y a un problème, Pascal.
À un moment donné, Dembélé, il doit dire s'il se sent pas. Non, mais ça devait pas être le cas.
Ce que j'arrive pas à comprendre, Pascal, c'est que qu'on soit déçu que ce soit arrivé.
Tu les mets dans le formol.
Tu reparles avec le sélectionneur plus tard, mais qu'il soit a priori de ce qu'on nous remonte et ce que a pu recueillir Arthur outré, en colère. Mais comment tu peux être en colère?
Ils sont en colère parce que ils ont l'impression qu'on les a pas écoutés sur ce coup. Ils ont demandé de la précaution sur Dembélé et ils ont l'impression de pas avoir été écoutés. Juste Dembélé, je rappelle, il a un seul entraînement collectif, hein, celui de la veille de match, et il joue une mi-temps après la blessure de Doué. C'est ça qui énerve le
mec. Mais d'accord, mais moi on parle de précaution, mais dis-moi, il y a un sélectionneur, il y a une équipe de France. Je suis désolé, c'est pas le club qui décide, le club du joueur qui va décider quelles précautions doit prendre. Je pense que Didier Deschamps est assez professionnel pour savoir ce qu'il a à faire. Je trouve que c'est même indigne du PSG de maintenant de gueuler, de reprocher à Deschamps de l'avoir fait jouer. Moi, je trouve que ça va trop loin.
Tiens, on a des réactions au 32-16. Guillaume, supporter du PSG, nous appelle. Salut Guillaume.
Bonjour à tous. Mais ce que je veux dire, ça va pas faire. Pour moi, je suis désolé, c'est Deschamps n'en a fait qu'à sa tête. Parce que il y a un exemple d'un autre joueur du PSG, Ruiz, qui avait le même type de blessure que Dembélé. Il est allé faire constater sa blessure. L'Espagne lui a dit précaution, on te renvoie à Paris.
Fabien Ruiz.
Le plus important pour Deschamps, c'est d'avoir Dembélé en forme pour la Coupe du Monde ou d'avoir Dembélé en forme pour l'Ukraine. Parce que quand on voit la poule de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, pouvait se passer de faire rentrer Dembélé. Il y a des joueurs sur le banc.
Sur entre Ruiz et Dembélé avant qu'ils aillent en sélection ne sont pas les mêmes. Bon, tu compares deux blessures qui ne sont pas les mêmes. Certainement que la blessure de Ruiz était grave au point de le renvoyer, tout simplement. Celle de Dembélé ne l'était pas, tout simplement.
Oui, c'est pas les mêmes.
Quand on voit l'historique de blessure de Dembélé, depuis 2 ans qu'il est au PSG, il a été géré, je dis pas à la minute près, mais on constate qu'il n'avait pas eu de graves blessures musculaires comme il avait eu du temps où il était à Barcelone.
Mais il est sujet à ces blessures-là, malgré tout.
Mais qui soit sujet à ces blessures, ça, on est tous d'accord. Mais pour moi, je veux dire, Dembélé, qu'il était gardé parce que Deschamps estime qu'il est là, ok. Mais on ne le fait pas rejouer, même pas une semaine après sa sortie de blessure.
Il fallait que le PSG pèse de tout son poids pour qu'il ne soit pas sélectionné.
Et Ousmane Dembélé lui-même.
Que Deschamps ou le staff de l'équipe de France doit aussi se dire, on est dans un cas particulier où les joueurs l'année dernière, ils ont fait une compétition en plus, ils ont eu très peu de vacances, et bah sur ces joueurs-là, on va mettre une attention particulière et plus de précautions que d'habitude. Votre raisonnement dans l'absolu, en général, évidemment, le joueur est apte, il le fait jouer, mais là quand même, sur un joueur fragile comme Dembélé qui sort qui avait déjà une alerte au Mondial des clubs musculaires, une autre là contre Toulouse, la question aurait pu se poser.
Donc tu le prends pas et Dembélé fait la gueule.
Mais c'est surtout que tu viens d'expliquer, Jean-Louis. C'est-à-dire qu'il a un historique de blessure. Et donc l'historique de blessure fait qu'il aurait pu se blesser dans n'importe quelle circonstance. En fait, c'est pas forcément le contexte qui a fait qu'il se blesse. Et il aurait pu se blesser quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui explique Deschamps d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il le fait jouer. Pour lui, il est apte et il se blesse.
En plus, les amis, il rentre quand même Ousmane Dembélé dans un match qui n'est pas décidé encore, il y a 1-0 et c'est peut-être le match le plus important de la qualif, le match le plus dur à aller jouer en Ukraine, donc le contexte est quand même important sur cette séquence.
C'est pas un match amical, c'est un match qualificatif pour le prochain mondial.
Il y aurait eu 2-0, je pense qu'il n'aurait pas fait entrer tout simplement, et tu as raison de reparler du contexte du match, du moment, le moment.
Parce qu'il aurait pu faire entrer qui, Jean-Louis, avec qui? Cliouche.
Oui, c'est ça. C'était donner la première sélection à Cliouche, ou bien d'envoyer Barcola sur le côté droit et de faire rentrer Rabiot comme il l'a fait en deuxième mi-temps sur le côté gauche.
Non mais c'est vrai que après, ça pose question, Jérôme.
Après, ce qui pose question aussi, c'est la position du joueur lui-même. On le sait bien, il est revenu, ils sont revenus du mondial des clubs. Ils ont peu coupé. Ouais, mais le joueur il veut jouer, mais Denis, à un moment donné, il y a quand même des staffs super étoffés dans les clubs. S'il y a quelqu'un qui est capable de lui parler, de lui dire, écoute, l'an dernier, t'as fait la saison que t'as fait, tu vas devenir Ballon d'Or certainement parce que tu as une préparation idéale. On va pas précipiter les choses. Prenons notre temps.
Mais d'accord. Parce qu'il y a personne mais avec le staff du PSG, s'il discute.
Je crois que Dembélé, il tape du pied pour aller jouer en Ukraine.
Mais si le staff du PSG a une crainte, à ce moment-là, s'il a une crainte, il lui interdit d'y aller.
Surtout qu'il sort de ce
club. C'est un accord entre le club. Mais Dembélé, évidemment, que par rapport au Ballon d'Or, il a envie d'aller jouer en Ukraine.
Non, mais les gars, on a tous été autour de cette table sportive. Quand t'es bien ou pas bien, tu le sais, tu le sens.
Oui, mais ça va au-delà. Il faut croire qu'il se sentait bien, puisqu'il a répondu favorablement. La
c'est
convocation.
Pas le même que quand il est. C'est pas
on n'oublie
même
pas aussi une chose. Il y a une chose, Jérôme, qu'on doit prendre en compte, c'est que ce sont de grands joueurs et que le leadership est important.
Ben oui, non, mais ça, c'est
Dembélé, il a envie d'être une star de l'équipe de France.
Bien sûr.
Il en est une et il veut confirmer.
Les votes sont clos d'ailleurs pour le Ballon d'Or, c'est le 22 septembre pour la remise au Théâtre du Châtelet. Jean-Louis, avant de te quitter, déjà, c'est quoi la suite pour Dembélé là? On sait ce qui est prévu parce que la gravité de la blessure, on la connaît pas pour l'instant. Et pour Désiré Doué aussi, qu'est-ce qu'on sait?
On va y avoir des tests, une IRM pour Dembélé qui a quitté le rassemblement, donc il va rentrer dans son club. Bon, là tout le monde rentre à Paris, donc il va pas très loin, mais il va quitter l'équipe de France. Désiré Doué, on attend de voir, touché au mollet, ça m'étonnerait quand on le voit face à l'Islande mardi, donc à mon avis les deux vont quitter la sélection et il va leur rester quelques temps de récupération. Il y a un doute déjà pour le match de Ligue des Champions contre l'Atalanta de Bergame qui arrive dans une dizaine de jours.
Dans 12 jours.
Voilà, avec ce genre de blessure musculaire, à mon avis, là, va y avoir un vrai principe de précaution, au moins pris par le PSG.
Et il y aura aussi Marseille-PSG hein, dans 17 jours, donc c'est vrai qu'il y a un contre-la-montre peut-être qui va commencer pour Ousmane Dembélé. Ça va nous alimenter, je pense, nos émissions pendant un petit moment. Merci Jean-Louis.
Merci à vous.
À très vite. Francis Land, hein, je vous rappelle, 20h45 mardi pour continuer de voir les qualifications de nos Bleus. Tiens, je vous rappelle, un événement dans les GG du sport ce matin. Vous pouvez remporter justement vos places pour assister à ce match. Donc, Francis Land mardi au Parc des Princes. Pour remporter vos deux places, vous envoyez France. FRANC par SMS, France au 7-32-16.
France, s'il n'y a pas d'euros à la fin, c'est franc.
7-32-16. Hein. C'est franc, ouais. Ce qui était une monnaie ou une civilisation.
C'est ce que tu viens de dire, en fait. Hein.
J'ai dit France. C'est E. Ah, j'ai pas dit le E.
Non, il y a un E.
J'étais pas très fort au
Scrabble.
FRANC.
On l'a pris un peu à la gorge, il est dans les cordes, là, pour l'instant.
C'est bien. En tout cas, je vois que vous êtes attentifs. Et c'est très important. Dans quelques instants, vous allez être très attentifs également dans le zapping. Il va être question d'Alcaraz. Figurez-vous que c'est la finale de l'US Open. Ah, quelle surprise! A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pascal Duprat, Fred Weiss, Jérôme Pinault et Denis Charvet. On a parlé des Bleus dans un instant sur le ring des GG. C'est la reprise du top 14, figurez-vous. Ça va commencer à 13h avec le stade français qui sera déjà à Jambouin. Toulouse est en lice pour un quatrième bouclier de Brennus consécutif. Vous vous rendez compte, l'hégémonie toulousaine est-elle un problème pour le championnat? Vous n'êtes pas tous d'accord autour de la table. Ça va être animé.
Pour changer,
ouais. Sinon, on appellerait cette émission les petites gueules du sport. Vous êtes d'accord? Et puis, en fin d'émission, je vous rappelle. Ah, ça t'a fait marrer, ça, les petites gueules du sport. En fin d'émission, venez jouer avec vos GG dans les jeux du sport. Ça, c'est encore plus marrant.
Là, on est nul, là.
Ce week-end, alors, vous pouvez remporter votre Ghetto Blaster en design rétro de la marque Muse. Est-ce que c'est un Ghetto Blaster?
Absolument pas.
Et vous voyez pas, c'est l'espèce de audio hi-fi que vous pouviez emporter dans les années 90. Ouais,
moi, je connais bien, mais je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu, moi. J'ai gagné.
Excusez-moi, je ne suis pas bilingue, monsieur.
Tu l'as déjà, Pascal, toi. Tu n'as pas reçu de me le recevoir.
Là, tu vas pas, c'est le
temps. Mais comme j'ai gagné la semaine dernière, je ne l'ai pas reçu.
Ben, on va te l'envoyer, mais je te préviens, ça prend de la place. Hein.
Tu
vas
plus te balader avec ça dans la rue.
Bien sûr. D'ailleurs, tu fais du hip-hop et tout, normalement. Pour remporter votre Ghetto Blaster. Il faisait du disco.
Garde-le, alors.
Pour remporter votre Ghetto Blaster et participer au jeu avec vos GG, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16 pour vous inscrire. Tout de suite les GG, vous me dites on s'en fout ou on s'en fout pas.
Le zapping des des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. On connaît l'affiche de la finale de l'US Open. Ce sera, tiens, Alcaraz Sinner. Fred.
Je m'en fous pas.
Denis.
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Moi non plus, évidemment.
Pascal.
Moi non plus.
Troisième finale du Grand Chelem consécutive entre les deux géants. L'Espagnol a battu Djokovic en 3-7. L'Italien a lâché un 7. Ouh là là, contre Félix Auger-Aliassime. Victoire en 4-7. Finale à suivre demain, 20h sur RMC, sur place avec Eric Salio. La finale, en plus, aura un enjeu supplémentaire. La place de numéro 1 mondial entre les deux garçons. Tiens, vous voulez écouter la rivalité? Oui. Carlos Alcaraz au micro d'Eric Salio.
What makes a really good rivalry?
Ce qui fait une bonne rivalité, les confrontations directes avant tout. Yannick et moi, on lutte aussi pour la place de numéro 1 mondial. On a déjà joué deux finales de Chelem l'un contre l'autre, plusieurs finales de Master 1000 aussi. On se bagarre pour des grands titres et c'est ce qui fait notre rivalité. C'est ce que nous accomplissons, comme l'ont fait les membres du top 3. Ils se sont partagés les titres majeurs pendant longtemps. Ils ont été numéro 1 à tour de rôle. C'est ainsi qu'on construit une belle rivalité.
Et une belle rivalité que l'on va encore voir dimanche soir, 20h. Denis, t'as des étoiles dans les yeux.
Oui, parce qu'ils construisent leur histoire en fait, parce que il manque le troisième. On est un peu frustré parce qu'on aimerait qu'il y en ait un troisième. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ils sont tous les deux en train de se partager cette place numéro un. Mais surtout, on se souvient tous de la finale de Roland Garros qui était extraordinaire. Après, en Wimbledon, c'était un peu moins comment dire, de jouer entre les deux. Mais
ouais, mais s'il y a eu la revanche de Sinner.
Il y a eu la revanche. Sinner a gagné. Puis là, c'est un peu la belle. Il me tarde de voir ce match. Oui.
Pascal.
Oui, mais tout ce qu'on espère, c'est que ça dure, parce que moi, je crains simplement qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre, qui est vraiment un numéro un qui se détache et qui batte souvent l'autre, souvent. Et voilà.
J'ai une idée. Pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, c'est pas le cas, mais.
Ouais. C'est pas arrivé depuis 1964 qu'ils fassent trois finales de Grand Chelem les deux mêmes. Donc c'est quand même assez extraordinaire, historique.
Dans l'air open,
et je rejoins Denis. Il manque un troisième. Il manque un troisième, sinon on va finir par se tasser.
Oui, on va se
tasser. Toujours les mêmes, on va se tasser.
Mais surtout, ce qui va être important, c'est surtout du dur. C'est plus la terre battue. Normalement, Sinner, il est meilleur. On va voir. J'aimerais voir si Alcazar va aller le titiller.
Alcazar, c'est dans Alcazar, Tintin. Oui, tu te rappelles le général là,
oui, oui, Alcazar, c'est là où tu étais. T'as failli y aller.
Bienvenue au club,
Alcaraz. Jérôme, Alcaraz Sinner. Oui, il faudrait pas que ce soit comme Vingegaard, Pogacar, avec un qui.
C'est ce que le passionné de tennis et les autres attendent, une finale comme celle-ci, mais c'est presque trop attendu. Maintenant, il faut aussi, oui, comme je suis d'accord avec vous, un troisième parce que. Ça va devenir finalement la récurrence. Et on en parlait cette semaine aussi avec les copains. Je me dis aussi qu'il y a tellement de surprises. On voit chaque année, chaque grand chelem, c'est tiens, il est en quart de finale. C'est le futur demain. On parle des Français, mais d'autres, on a l'impression que certains arrivent. Et finalement, ma réflexion, c'était est-ce qu'il y a les deux? Puis derrière, c'est le désert, quoi. Il n'y a plus de hiérarchie.
Je ne peux pas dire que ce soit le désert.
Le
niveau est extrêmement relevé.
Il a raison de dire ça. C'est un autre niveau, en dessous.
En fait, ce n'est pas des vrais challengers qu'il y a derrière.
Ma réflexion, c'était exactement ce que tu veux dire. C'est que tu sens qu'en dessous, ça n'arrivera jamais au niveau des deux là.
Quand il y en avait trois qui luttaient, c'était exceptionnel. Ça a duré une quinzaine d'années.
Alcaraz Sinner, voilà. Demain 20h sur RMC. D'ailleurs, Bartoli Time, dès 19h demain avec Marion, on sera en direct de Flushing Meadows avant match exceptionnel. Et puis il y a le final féminine ce soir à suivre sur RMC à 22h. La vainqueur sortante, Aryna Sabalenka, face à l'américaine Amanda Anisimova. On zappe, je m'en fous pas. Max Verstappen qui encense Isaac Hadjar. Pascal.
Je m'en fous pas.
Ah, Fred.
Je m'en fous complètement.
Denis.
Je vais écouter.
Jérôme.
Moi, je m'en fous, moi.
Alors, le Français troisième aux Pays-Bas le week-end dernier, pilote pour Racing Bull. Je vous rappelle qu'il est l'antichambre de Red Bull. Pourquoi pas devenir l'équipier de Verstappen, le quadruple champion du monde la saison prochaine. Verstappen a dit ceci. J'aime bien Isaac. Sympa le Max. C'est la direction qui décide chez Red Bull. S'il pense qu'il est prêt, alors je suis sûr que l'équipe prendra une décision. Grand Prix de Monza, je rappelle, ce week-end, 15h. Tu t'en fous pas du tout, Pascal?
Un quadruple champion du monde qui dit du bien d'un pilote français qui vient de faire une troisième position en Hongrie. Aux Pays-Bas, pardon. Quoi de mieux pour ce pilote qui est apparemment un pilote en devenir, qui est rapide, qui a tout pour lui. Donc moi, je peux pas me foutre du fait que Verstappen l'encense. Merci Verstappen de l'encenser, parce que c'est mérité.
C'est gratuit surtout.
C'est grave. Bah, c'est gratuit.
Je sais pas
mais bon.
Si c'est gratuit, c'est mais bon, hein. Écoute.
Il peut dire no comment, je veux pas me mouiller.
Il va arriver la prochaine à ses côtés.
Mais moi, il m'a préféré qu'il dise quoi. Moi, il m'arrive de faire des compliments sur Jérôme Pinault et j'en porte pas la moitié.
T'aurais préféré qu'il dise quoi.
Mais non, mais Pascal, c'est politique, ce que je veux dire. C'est pas. Ils en savent très bien qu'il prépare son arrivée, tout simplement. Je le crois.
Quand bien même, ouais, Denis préparait son arrivée, il est où le problème? Il va pas chaque fois
moi,
payer
dit,
pour dire du bien des gens, non?
C'est un peu trop tard.
Non, t'avais pas dit que tu t'en foutais, tu avais dit, je vais écouter.
Non, mais ils peuvent pas, de toute façon. Allez, et après, c'est moi qui prends dans le casque que c'est le bordel sur le plateau.
C'est toi le meneur en même temps.
Oui, c'est toi le coach. Allez, les amis, je m'en fous pas. En boxe, deux légendes, ah oui. Floyd Mayweather et Mike Tyson, oui, devraient s'affronter au printemps 2026. Denis.
Bah, je m'en fous pas, là.
Jérôme.
Et je m'en fous pas.
Pascal.
Bah, je m'en fous complet.
T'énerve pas non plus. Fred.
Je m'en fous pas.
T'en fous pas, vous en foutez pas. Alors, je vais vous raconter. Mike Tyson, 59 ans, hein, et Floyd Mayweather, 48 ans, ont trouvé un accord pour un combat d'exhibition en 2026. Alors, on ne connaît pas la date exacte ni le lieu pour ce combat, ni la bourse. Tu as bien raison de le dire. Mais les deux boxeurs ont dit que ce serait plutôt printemps 2026. Je rappelle qu'ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Hein. Tyson était un lourd, Mayweather dans les catégories inférieures. Tiens, Mayweather a dit ceci: aucun boxeur n'a réussi à ternir mon héritage. Ce combat donnera aux fans ce qu'ils veulent. Non, mais ce combat donnera aux fans ce qu'ils veulent. Denis, tu as dit c'est n'importe quoi.
Non, c'est pas mais je l'avais déjà dit quand Tyson a combattu
contre un influenceur,
ouais, c'était grotesque quand même. Paul il a retenu ses coups, je pense même qu'il est... mais on sait très bien les bourses, la bourse c'était 20 millions de dollars je crois, hein, pour Tyson, c'est beaucoup d'argent, c'est qu'il en a perdu beaucoup, donc il fait ça pour le pognon, il faut pas rêver, mais je trouve ça pathétique que son image elle est cornée forcément. Moi j'ai envie de garder cette image de Tyson qui était invincible et qui était un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Moi ça m'ennuie, ça me pose un vrai problème.
Ça en dit long sur la boxe.
Bah, c'est ce que j'allais dire.
Ça en dit long sur la boxe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stars, t'es obligé de sortir les vieux là. J'ai l'impression que c'est un combat d'EHPAD. C'est d'une tristesse absolue. Effectivement, c'est des stars absolues aussi. On était tous fans de ces deux combattants. Et maintenant, ils vont se battre comment?
Mayweather, il est très riche.
En fait, avec un entier.
Bah, bien sûr.
Non, mais je veux dire,
invaincu, je rappelle, c'est un des sportifs, même les plus riches de l'histoire.
Riche, je crois, parce que lui, il prenait l'argent, mais on a du pay-per-view, non, je crois.
Hein. Exactement.
Non, mais des sommes.
Mais le combat face à Pacquiao est le plus lucratif, je crois, toujours ou pas loin de l'histoire. Hein.
Georges, pourrais-je ajouter, Georges, s'il te plaît, que je n'ai rien dit.
Non, non,
moi, je respecte les règles, messieurs. Ouais, je n'ai rien dit. Voilà, c'est tout. Georges, merci.
Jérôme, il adorerait voir, je sais pas, Miguel Indurain contre Pogacar.
On va organiser là, ouais, on va essayer de faire un truc. Eddie Merckx, Stevenay, là, on va faire une montée, voir un peu ce que ça peut donner.
Je pense que ce serait des milliards de dollars, je pense. De dollars, pas en euros.
C'est là le problème.
On va proposer ça à Christian Prudhomme, on va voir ce qu'il nous dit.
20 patates, Eddie Merckx contre TV.
Allez les amis, dans quelques instants, on va monter sur le ring des GG. L'hégémonie du Stade Toulousain est-elle un problème pour le top 14 qui reprend ce week-end? On se retrouve dans quelques instants sur RMC avec Jérôme Pinault, avec Denis Charvet, Fred Weiss et Pascal Duprat. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.